Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack. What a drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day.
Mother's Little Helper, qui nous ouvre la troisième partie de Soundtrack ce matin, et un fameux anniversaire d'ailleurs, puisque là aussi on a du mal à y croire quand on en parle, bien que c'est une époque que ni vous ni moi n'avons connue. Bonjour Laurent Riepi.
Bonjour Laurent, mais c'est une époque qu'on adore, effectivement, même si on ne l'a pas vécu, mais 60 ans, ça marque quand même.
Effectivement, ouais, 60 ans donc pour l'album Aftermath des Rolling Stones, auquel nous dédions une spéciale ce matin, donc ici. Alors, pourquoi déjà ce titre pour commencer? Pourquoi pas, par exemple, le plus connu, j'ai envie de dire, Paint It Black?
Eh bien, parce que Paint It Black ne figure pas donc sur cette version britannique d'Aftermath. Hein. C'est un détail qu'on a tendance à oublier, hein, souvent. L'album tel quel, donc Aftermath, a été pressé au Royaume-Uni et en Europe, bah cette version-là n'est pas la même que la version américaine.
Mmh. Donc, une petite anecdote, mais c'est quand même rigolo, parce qu'en Angleterre, c'est sorti chez Decca, et aux États-Unis, c'est sorti chez London.
Oui, c'est ça.
C'est amusant.
C'est vrai que c'est pour montrer que c'est anglais. Hein. Voilà. Voilà, il veut le préciser. Et donc, Paint It Black est sorti donc en single au printemps 66, et bon, clairement, ça a tout écrasé à sa sortie. C'est un morceau absolument incroyable, mais il est absent, donc ce morceau, du pressage européen. Et comme on entend régulièrement ce morceau, hein, Paint It Black sur Classique 21, eh bien, autant mettre ici en avant l'album tel qu'il a été conçu ici, de notre côté de l'Atlantique, et donc ce qui nous permet de revenir notamment sur des titres fascinants et un peu moins courus, comme notamment Out of Time, un titre d'Aftermath que les Stones n'ont joué sur scène pour la première fois qu'en juin 2022, à Madrid, vous imaginez.
Oui, quand même. Ouais.
55 ans après l'avoir enregistré, et autour de ce morceau, il y a toute une histoire encore plus étrange, puisque Jagger va produire lui-même une version de ce morceau qu'il a écrit avec Keith Richards, mais une version qu'il va enregistrer pour le chanteur Chris Farlow, qui en fait d'ailleurs un numéro 1 au Royaume-Uni en 67. C'est l'unique titre qui est donc signé Jagger Richards à être monté en tête des charts britanniques interprété par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est aussi historiquement intéressant. Et on se fait plaisir d'ailleurs en écoutant quelques secondes, non pas de la version de Chris Farlow, mais bien sur celle qu'on retrouve donc sur l'album Aftermath, donc ce Out of Time qui reste quand même un grand classique des années 60.
Voilà, donc c'est un tout petit bout de Out of Time, mais voilà, histoire de justement pouvoir préciser les propos que vous venez d'évoquer.
Et puis on va maintenant mettre en avant ce titre qui ouvre l'album Aftermath, et quel morceau, j'ai envie de dire, Mother's Little Helper. Justement, c'est le morceau qu'on a écouté donc en entrée d'émission, et il dit quelque chose de précis sur ce que sont les Stones à ce moment-là, c'est-à-dire des garçons de 22 ans qui regardent le monde des adultes avec une ironie froide, parfois même un petit peu cruelle. Le texte parle de ces femmes au foyer qui avaient des tranquillisants, donc qui abusaient tranquillisants pour tenir le coup. Hein, voilà, gérer une vie de famille, gérer le travail, etc. Et c'est une satire sociale dans un album de rock en 66, c'est pas courant à l'époque, et surtout c'est absolument pas courant chez les Stones, c'est la première fois qu'ils commencent à écrire ce genre de texte. À côté observation de ce qui se passe autour d'eux.
Et musicalement parlé, c'est un titre qui tranche aussi.
Ah, il y a beaucoup, ce riff qu'on a écouté au début, ce riff de guitare 12 cordes au bottleneck traité pour donner un petit côté oriental à l'ensemble, c'est la signature de Brian Jones, et c'est là que commence véritablement cette histoire de l'album Aftermath. C'est le premier album des Stones composé entièrement par Jagger et Richards. Donc il n'y a plus une seule reprise ici, ils vont un petit peu enterrer, en tout cas pour un temps, le fantôme du blues de Chicago qui les avait nourris depuis le début, puisqu'on sait que c'était des
fans,
des adeptes de, de reprendre certains standards à leur façon. Ça vaudra d'ailleurs une vilaine remarque de Paul McCartney de très très nombreuses années plus tard, qui dira que les Rolling Stones c'est un groupe de cover. C'est pas très sympa. Et Jagger dira à propos d'Aftermath bien plus tard, donc en 1995 en interview, il dira: Aftermath a été un grand jalon pour moi, c'est la première fois qu'on écrivait tout l'album et qu'on déposait enfin le fantôme de ces reprises de vieux classiques.
Et cette liberté, d'où est-elle venue ?
Eh bien, d'une période assez paradoxale. Quelques mois plus tôt, on le sait dans l'histoire du rock, nous sommes en 65, juste avant la sortie de cet album, c'est l'année 65 de la sortie de Satisfaction. Le succès absolu. À partir de ce moment-là, l'argent va couler à flot, les voitures de rêve vont s'accumuler pour les membres du groupe. Keith Richards va s'acheter une petite Bentley, Bill Wyman une Morris, et en même temps, il y a une lassitude qui commence à s'installer vis-à-vis des attentes du public, notamment le public qui attend ces morceaux de 3 minutes qui sont imposés généralement en format par les radios. Les sessions d'Aftermath se font donc à Los Angeles, au studio RCA, en décembre 65, puis en mars 66. Et l'atmosphère, selon le témoignage de ceux qui étaient présents en studio, n'est pas la même que sur les albums précédents. On est ici dans une sorte de laboratoire. N'importe quel instrument qui traîne dans le studio est ramassé, essayé, et puis intégré dans le mix. C'est une optique qui est plus aventureuse, j'ai envie de dire, plus expérimentale. Et les Stones, clairement, à ce moment-là, ils ont envie d'aller de l'avant, quitte à faire évoluer leur son de manière parfois assez drastique.
Ils ont utilisé tous les jouets qui étaient à leur disposition. Ici, on les retrouve avec Lady Jane.
my sweet Lady Jane. When I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane.
Là, évidemment, ben, on sent hein, qu'on est franchement très loin du Chicago Blues.
Ah, très très loin même, et c'est Brian Jones qui va apporter ce son différent. Il joue ici du dulcimer, un instrument à cordes pincées originaire des Appalaches. Donc c'est un instrument qu'il a découvert par l'intermédiaire du musicien folk Richard Farina. Keith Richards dira d'ailleurs que l'inspiration, et là aussi on est dans un autre monde que sur les albums précédents, et bien l'inspiration du texte de Lady Jane vient notamment de lecture de Chaucer. Hein. Chaucer, c'était un ancien, je pense qu'on est au 14e siècle en Angleterre, un grand auteur de les contes de Canterbury notamment. Donc on est dans la littérature classique de chez classique britannique. Ouais. Et donc les Stones s'inspirent de ça. Et ce qui frappe aussi, c'est que Mick Jagger confessera des années plus tard qu'il ne sait vraiment pas de quoi parle ce morceau. Il y a des noms historiques qui sont cités, une atmosphère un peu façon élisabéthaine. Et surtout, et ça aussi c'est quelque chose un peu nouveau, une tendresse rare dans leur catalogue habituel, mais avec ce sens précis du morceau qui reste un peu finalement dans la vague de ce qu'on appelle le psychédélisme à l'époque. On dit des choses, il y a aussi Dylan qui invite à une certaine fantaisie dans le texte, et bien tout ça évidemment influence les Rolling Stones.
Et Brian Jones, à ce moment-là, est-ce que c'est encore le grand personnage ?
En tout cas, c'est le personnage le plus complexe sur cet album, parce que le paradoxe ici est important. Brian Jones, il faut le rappeler, on l'oublie souvent, c'est le fondateur des Rolling Stones, c'est lui qui a mis en place.
Absolument, oui, c'est important de le préciser. Ouais.
Le groupe, le nom, la direction artistique du départ, et au moment d'Aftermath, son autorité commence à s'étioler au profit de Jagger et Richards, qui forcément s'imposent, puisque c'est eux qui écrivent tout. Généralement, on le sait, ceux qui écrivent,
effectivement, c'est eux qui donnent les directives et la direction à suivre aussi.
Exactement. Et donc, à ce moment-là, donc, on a l'impression, en tout cas Brian Jones sent qu'il est en train de perdre le leadership, mais simultanément, il devient autre chose. Il se transforme, enfin, en tout cas son apport dans le groupe se transforme, et il devient une sorte d'arrangeur, de coloriste du groupe. Et donc il va délaisser souvent la guitare, parce que bah, généralement Keith Richards peut s'en charger sans lui. Et pour délaisser sa guitare, il va explorer tout ce qui traîne hein, dans le studio, et notamment bah, le marimba sur Under My Thumb, le sitar sur Painted Black, le dulcimer ici. Et donc sans Brian Jones, Aftermath sonnerait comme un bon album de rock, mais il n'aurait pas la même la même couleur, et avec lui, bah, cet album Aftermath ressemble à quelque chose qu'on n'avait peut-être encore jamais entendu.
Ouais, c'est le cas de le dire. Et donc avec ce fameux marimba, Under My Thumb, c'est ce que l'on va écouter.
Classique 21, Soundtrack.
Under My Thumb, une chanson, bon évidemment c'est un jeu de mots, hein, mais c'est une chanson qui aujourd'hui aurait beaucoup plus de mal à passer.
Oui, ça c'est clair, hein, le texte compare une femme à un animal domestique soumis. Voilà.
Élégant.
Jagger se défendra toujours hein, auprès des féministes en disant que c'était une caricature adolescente, la réponse d'un garçon à une femme qu'il avait auparavant dominée par un manifeste général. Hein. Il faut savoir que Chrissy Shrimpton, hein, la mannequin avec qui il avait une relation complexe à l'époque, est souvent citée d'ailleurs comme l'inspiration directe. Voilà, il essaiera de se débattouiller de tout ça. Ce sera pas très simple.
Mais bon, on est au cœur des années 60 et la société à l'époque était encore très patriarcale. La mère au foyer pour les enfants, et puis c'était le père qui bossait, quoi.
Voilà, même si effectivement les féministes commencent à se montrer à ce moment-là. Et en 66, ben, on parlait moins de tout ça, mais ce qui retenait l'attention dans ce morceau, c'était surtout ce marimba, ce motif répétitif, exotique, hein, qu'on peut dire dans ce morceau, qui fait que ben, ça lui donne une tension hypnotique. Et c'est vrai que si on fait la projection mentale de reprendre ce morceau et d'enlever le marimba, eh bien, c'est un chouette morceau.
Mais il manque quelque chose. Ah ouais, c'est comme le tambourin dans Get Ready, par exemple.
Des petites choses qui apportent vraiment une couleur et qui font que ces morceaux entrent dans l'histoire.
En effet. Et alors, il y a une citation de Mick Jagger sur l'âge de cette période qui est assez saisissante.
Ah oui, ça résonne d'une façon tout à fait particulière aujourd'hui. Donc, en 2026, hein, Jagger a 22 ans en 66 et il dit dans une interview, j'ai calculé que j'aurais 50 ans en 1994. Autant vous dire que je serais mort. C'est horrible, non?
Oui, évidemment, quand on sait que ça n'a pas été le cas, c'est assez rigolo.
C'est ça quoi, et alors il continue. Un demi-siècle, je m'imagine arriver sur scène dans ma voiture noire d'handicapé, agiter mon derrière devant le public et déclarer « Et maintenant, une vieille chanson, elle s'appelle Satisfaction ». Alors aujourd'hui, il a 82 ans, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il monte toujours sur scène.
Il remue toujours le popotin.
Et pas en chaise roulante.
Effectivement, oui, tout à fait. Alors, il reste encore une histoire à raconter avant qu'on parte sur la musique.
Ben oui, c'est celle de ce morceau qui referme l'album brillamment, qui s'appelle Going Home. 11 minutes et 13 secondes. C'est le premier morceau du rock à briser la barrière des
3 minutes.
Ouais, du format habituel, hein, on va dire. Et c'était vraiment quelque chose qui n'était pas prévu, et c'est souvent dans ce genre d'heureux accident que naissent les morceaux les plus intéressants, puisque à ce moment-là, le groupe joue, comme ils font souvent, une jam bluesy. Et ils enregistrent. Les deux premières minutes passent, personne ne donne le signal d'arrêt, tout le monde s'amuse bien. Ils vont continuer, et ils vont oublier finalement qu'il y a une bande qui tourne dans le studio. Et à un moment, Keith Richards se rend compte que ça commence à durer, il va enlever son manteau et même le jeter sur Charlie Watts pour lui dire « Allez, c'est bon, on va s'arrêter ». Et Charlie ne va pas s'arrêter parce que voilà, il est dans le feeling, il y a un truc qui se passe. Et donc ils ont laissé tourner ce morceau pendant 11 minutes. Et c'est pas un morceau qu'ils ont construit, c'est un morceau qui a finalement refusé de se terminer. Et qu'est-ce que c'est génial, parce qu'en fait, quand on l'écoute, on a vraiment l'impression d'être avec eux en studio et de passer un bon moment. Et si vous l'écoutez chez vous, faites-le peut-être attentivement si vous en avez l'occasion, parce que on est porté par ce rythme hypnotique. On entend Jagger qui est un peu haletant à certains moments, et c'est vraiment c'est pas encore psychédélique.
C'est un peu une
transe, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que 67, c'est plutôt la nuit psychédélique, mais on est déjà dans le pré-psychédélique. Et donc, quand on prend la peine de l'écouter, on se laisse vraiment emporter, comme vous venez de dire, dans cette transe qui est juste magnifique et qui fait clairement du bien.
60 ans d'Aftermath, on repart là-dessus.
Ben oui, avec un groupe qui... les membres du groupe avaient une vingtaine d'années à ce moment-là. Ils ne savaient pas encore qu'ils joueraient toujours à plus de 80 piges. Et ils ont gravé, c'est 11 minutes dans l'histoire, 11 minutes aussi, et c'est à préciser, qui vont inspirer beaucoup les musiciens par la suite, dans les années 60 et 70, et même quelques mois plus tard. Parce que beaucoup disent que sans ce Going Home et sa longueur, il y aurait probablement eu jamais le morceau The End de The Doors, qui va suivre quelques mois plus tard, où je vous parlais du moment où Jagger est en train d'halter, Morrison va faire un petit peu la même chose, ouais, sur le morceau The End, et le fait que les Stones se permettent de faire des longs morceaux, ça va ouvrir la voie à pas mal d'autres musiciens, et donc ça a ouvert aussi, c'est un chef-d'œuvre, et ça a ouvert la voie à d'autres chefs-d'œuvre, donc c'est magnifique.
C'est une très belle conclusion, c'est magnifique. Merci mon cher Laurent, je vous souhaite un très très bon dimanche.
À vous également. Spending too much time away. I can't stand another day. Maybe
Maybe you think I've seen the world, but I'd rather see my girl. I'm going home. I'm going home. I'm going home. I'm going home. Yes, I am. All those letters every day, I may be all right in their way, but I'd love to see your face when I get home in their place. I'm going home. She'll make me feel alright. My
asking for my thing. You gonna go in the early morning. Early in the morning. Early in the morning. Gonna catch that plane.
But now you're right.
Going Home, qui vient donc refermer de façon magistrale cette séquence ici spéciale hein, consacrée à l'album Aftermath des Rolling Stones, donc cet album qui fête son 60e anniversaire.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.